L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
C'est bien l'atelier numérique et vous êtes bien sur BFM Business. J'espère que vous passez un bon moment avec nous. Avec, à suivre dans cet atelier tout à l'heure, notre World Tour, nous irons du côté de Milan avec Lila Megraoua et on va parler de l'Expo Universelle et de Smart Cities. Vous verrez qu'il y a pas mal de points communs entre les deux. Notre French Tech Tour, 15 investissements pour les startups de la French Tech. Tout à l'heure, on ira du côté de la rédaction de Zeronet.com avec Eric Le Bourlou et puis on retrouvera le crash test d'Antoine. Entre autres, on parlera de réalité augmentée en magasin aussi. Ça sera juste avant le crash test. Je vous rappelle que l'atelier numérique est aussi disponible en podcast quand vous voulez. Vous pouvez réécouter cette émission à loisir, à la fois sur le site de BFM Business, mais aussi sur www.atelier.net. Bon, imaginez, vous êtes en recrutement, tout va bien, mais là, au lieu que quelqu'un vous dise si oui ou non vous êtes embauché, eh bien, ce soit un ordinateur qui réponde. Eh bien, à la place de la personne.
Est-ce que c'est le futur?
Est-ce que finalement, on va être recruté demain par des algorithmes, Aurore Géraud?
Eh bien, on va en discuter avec Christophe Montagnon, qui est donc directeur des services informatiques et de l'organisation de Randstad, et Geoffroy de L'Étrange, directeur marketing produit Europe de Cornerstone On Demand. Alors, Christophe et Geoffroy, bonjour.
Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
On va parler tout de suite de Big Data avec Christophe, du coup. Le Big Data au service du recrutement, c'est pas quelque chose de nouveau. Vous avez vous-même lancé une solution dédiée au Big Data. Est-ce que vous pouvez nous en parler?
On peut déjà qualifier notre solution comme une solution qui est en interne révolutionnaire pour nous, puisqu'en fait, on rentre cette fois-ci dans un détail en termes de composition en fait des profils qui est unique. Avec notre solution et développée avec un certain nombre de partenaires, en l'occurrence Oracle et Capgemini, on a la possibilité de rentrer dans le détail des compétences métier par métier et ça qu'on a construit en fait sur la base de la récupération de la totalité des demandes qu'on a de la totalité de nos clients. C'est des millions en fait de demandes, c'est des millions d'offres qu'on a traitées pour arriver à refabriquer en fait des profils de poste qui font des profils de poste qui nous permettent de rentrer dans le détail des compétences nécessaires.
Et alors concrètement, comment ça marche? Comment, avec la Big Data, vous arrivez à trouver le profil parfait pour tel client?
Là, en l'occurrence, dans un premier temps, on n'est pas sur le profil parfait d'un client. On est sur quelles sont les compétences qui sont nécessaires de manière standard pour réussir dans un métier. Aujourd'hui, traditionnellement, les gens fonctionnent et recrutent par métier. Et nous, il est important pour nous de descendre au niveau de la compétence. Donc ce qu'on a fait dans un premier temps, c'est de regarder finalement quelle est l'attendue de compétence métier par métier. Et ça, on l'a fait sur la base de l'historique de la totalité de la demande qu'on a depuis des années à l'intérieur de nos systèmes d'information. Et donc, on a recomposé, finalement, le profil type de la demande, métier par métier et par compétence. Ça permet, pour nous, en fait, de montrer à l'employeur quel est le profil standard qui existe sur un métier, quelles sont les compétences qui sont des compétences standards, et les ajuster particulièrement avec lui quand on est finalement en train de détailler son poste pour que l'algorithme ensuite s'adapte à son besoin. Mais dans un premier temps, on est capable de montrer quelle est la demande qui est fabriquée en termes de compétences sur un métier. Donc si vous recrutez un électricien, quels sont exactement les compétences qui sont demandées?
Oui, parce que c'est vrai qu'un électricien peut avoir des compétences diverses en fait.
Diverses et variées. Et oui. Il est important dans le sens du demandeur d'emploi d'avoir la capacité d'avoir une vue claire sur finalement qu'est-ce qu'on attend de moi dans un métier en termes de compétences. Ça le guide dans sa recherche, c'est fondamental pour nous pour l'aider à structurer la manière dont il perçoit sa recherche, et c'est fondamental pour nous pour aider le recruteur à se guider au travers de la compétence pour fabriquer son profil de poste idéal.
Si je me tourne du côté de Cornerstone On Demand, vous développez en fait une solution cloud de gestion de talent. Donc c'est plutôt de l'interne. Est-ce qu'on peut envisager de l'externe aussi?
Alors oui, nous sommes éditeurs logiciels, effectivement. Donc la façon dont nous fonctionnons, c'est que nous avons ces algorithmes qui analysent les données dont nous disposons, et nous avons plus de 20 millions d'utilisateurs sur notre base, mais ces données sont bien évidemment anonymisées. Il y a un sujet très très important sur la protection des données privées, de telle sorte qu'on soit évidemment conforme aux législations des différents pays, mais aussi qu'on analyse que les données qu'un candidat a volontairement données à l'entreprise. Donc comment ça fonctionne très concrètement? Je suis un recruteur, j'ai posté une annonce, j'ai eu 100 candidats. Ce qu'un système classique comme le nôtre fera déjà, c'est de dire, vu les compétences que vous cherchez, voilà les candidats qui correspondent le mieux. Donc ça marche déjà. Ce qu'apportera le Big Data, c'est un éclairage complémentaire, par exemple par le biais de questionnaires ce qu'on appelle en bon franglais assessment, pour calculer une sorte de probabilité de réussite. J'insiste sur le fait que non, ça ne remplacera pas un recruteur humain. C'est un deuxième éclairage, un deuxième coup de projecteur, et la décision appartient au recruteur, qui lui a un rôle qui va au-delà des compétences, il est garant de la culture d'entreprise, qui doit voir si le candidat, effectivement, pourrait s'intégrer dans la culture d'entreprise et pourra aller plus loin dans l'analyse de 3, 4, 5 candidats avec des entretiens plus classiques. Mais on lui donne un deuxième regard.
Christophe, vous vouliez rajouter quelque chose ? Est-ce que vous, typiquement, ce genre de solution peut vous intéresser ou pas ?
C'est typiquement des choses qui sont nécessaires de mettre en œuvre, c'est-à-dire la capacité qu'on va avoir à prédire en fait le succès d'un individu dans un poste. Parce que une des facettes clés en fait du big data, c'est on change finalement la notion de connaissance et on essaie de la projeter. On peut la projeter dans le temps, c'est-à-dire finalement imaginer ce qui va se passer par la suite. Et dans le temps, pour nous, dans un recrutement, c'est quoi ? C'est d'être capable de prédire avec plus de précision la capacité qu'un individu va avoir à occuper un poste dans une entreprise. Donc quand je revenais sur la problématique des compétences, la base de cette démarche, elle est de bien caler les compétences nécessaires pour être en succès dans un poste, parce que c'est ce qui est le socle de notre capacité pour être capable de prédire à une entreprise, cette personne-là sera en succès chez vous. Tout le travail qui va être fait de big data et de learning par la suite, en fait, c'est d'obtenir du retour pour améliorer et on continue de travailler ces algorithmes pour les affiner. Mais le fondement, en fait, de toute la démarche va reposer sur la capacité qu'on aura à prédire, en fait, la réussite d'un individu à l'intérieur d'un poste.
Est-ce que ça risque pas d'uniformiser en fait les recrutements, de lisser les profils? Est-ce que on perd pas en fait le côté empathique, par exemple, d'un recrutement?
Il faut détailler un recrutement dans ses phases en fait. Un recrutement c'est pas un acte monolithique. Il y a un certain nombre de phases. Il y a des phases qu'on appelle des phases de sourcing, dans lesquelles finalement on va chasser un certain nombre de profils, c'est-à-dire les récolter. Où là finalement les outils de big data vont être fondamentaux en fait pour accélérer la manière dont on va être capable de trier et cibler de manière plus précise. Et dans ce cadre-là, on est dans le sens contraire, c'est-à-dire qu'on va être capable de dénicher en fait des gens qui finalement n'ont pas été capables de se mettre en avant. Donc on va le dénicher parce que l'algorithme va permettre d'aller capter la bonne information sur la compétence ou dans le trajet ou dans le parcours professionnel ou dans les hobbies qui va nous permettre en fait de rapprocher des gens qu'on n'aurait pas pu rapprocher. Donc dans ce moment-là, en fait, dans ce moment du sourcing, au contraire, il va aider fortement à être capable d'aller discerner des profils qu'on aurait plutôt de manière standardisée, quand on voit à l'œil le CV comme ça, on n'aurait pas été capable d'aller chercher. Et ces technologies de traitement en instantané de grandes données vont faire le contraire.
Je crois que vous parliez tout à l'heure de ces données anonymes, que vous traitez. Est-ce que malgré tout, vous posez la question aux employés, en tout cas ces personnes qui postulent, vous leur dites, on peut utiliser vos données à des fins de fine-tuning, comme on dit.
Oui. Alors,
et comment réagissent-ils? Est-ce qu'il y en a qui vous disent non, ça m'intéresse pas?
La façon dont ça fonctionne, si vous voulez, c'est que nous, le contrat qu'on passe, c'est celui avec les entreprises clientes. Le principe est que on pourrait théoriquement, avec n'importe quelle technologie big data, aller analyser des informations qu'on trouve sur le web, par exemple, des fils Twitter, des choses comme ça. Nous, ce n'est pas quelque chose qu'on fera. Nous, on dira, l'entreprise qui est notre cliente a des données. Ces données lui ont été volontairement données par les candidats lorsqu'ils ont posé leur candidature. Et ce sont ces données-là, suite au contrat qu'on a avec l'entreprise, qu'on va analyser. Donc ce sont des données que les candidats ont volontairement données, qu'il s'agisse d'un CV ou de, comme je disais tout à l'heure, des réponses à des questionnaires, etc., qu'on va étudier. Donc là, clairement, on est dans la réglementation, on est dans la CNIL ou les équivalents dans les autres pays d'Europe. C'est un point important parce que il y a des offres qui existent d'analyser des données, entre guillemets, publiques, des données sur le web, etc. Et ça pose une vraie question, parce que même si je publie des fils Twitter qui sont théoriquement accessibles à tous, est-ce qu'on a envie qu'un robot fasse une analyse sémantique de la façon dont je rédige ? Non. Clairement, c'est, en tant que potentiel candidat, je n'ai jamais autorisé ça. Mais si je vais sur le site d'une entreprise, que je dépose mon CV, que je remplis volontairement un questionnaire, évidemment, je sais que ces données vont être analysées.
Je pense qu'il y a quelque chose qui pour moi doit être clair, c'est que la précision et la qualité de l'appareillement, du matching, de la compétence d'une personne avec un poste, elle n'est pas bonne du côté entreprise et pénalisante du côté du candidat, parce que le candidat, il a forcément tout intérêt à ce qu'on ait une grande précision du matching, hein, parce que l'emploi qu'on va saisir, hein, évidemment, il est fondamental qu'il soit bien adapté avec nos compétences ou avec nos appétences. Et donc, en fait, on est dans une démarche gagnant-gagnante, hein, parce qu'on le voit, quelqu'un qui finalement, ne serait-ce que par exemple prendre un emploi qui est un emploi dans lequel finalement on est surdiplômé ou surcompétent pour un emploi, on a très rapidement un désengagement qui se passe. C'est-à-dire que les gens finalement occupent des postes dans lesquels ils s'estiment en fait finalement sous-employés. Il y a un vrai désengagement individuel qui se passe. La personne, elle est en attente de ce qui se passe par la suite. Donc la précision du matching, elle est bénéfique à la fois pour le candidat et à la fois pour l'entreprise. Hein. C'est pas que du côté de la performance.
Mais est-ce que c'est pas aussi un moyen pour un candidat aussi, par exemple, d'alourdir son CV, de rajouter peut-être plusieurs compétences pour justement matcher plus souvent et se dire, bah tiens, ça pourra passer peut-être,
non ? D'où l'intérêt d'autres types d'informations comme des questionnaires type assessment qui jouent plutôt sur des aspects psychologiques, donc des études qui sont issues de plusieurs dizaines d'années de recherche en psychologie où il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. On essaiera plutôt de voir des aspects de caractère. Par ailleurs, ces aspects de données ne sont qu'un élément parmi d'autres de sélection. Comme je disais, il y a la sélection sur les infos qu'on a dans le CV, il y a la sélection par le big data, il y a aussi une sélection par le candidat lui-même. Si on lui donne des informations claires et transparentes sur la réalité du poste, par exemple sur un call center, on lui fait écouter un enregistrement classique et un enregistrement avec un client mécontent, par exemple, rien que ça, pour lui montrer la réalité d'un poste, il pourra éventuellement décider de ne pas postuler. Et je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure sur l'aspect discrimination, lutte anti-discrimination. Nous, on a des résultats avec nos technologies aux États-Unis qui vont à l'encontre d'idées reçues, comme par exemple le fait qu'une personne qui change souvent de poste ne soit pas forcément un mauvais candidat, ou que quelqu'un qui sort d'une longue période de chômage puisse être aussi motivé et aussi impliqué et aussi efficace dans le poste que quelqu'un qui ne sortirait pas d'une période de chômage.
Voilà. Et puis rassurez-nous quand même, l'entretien physique, humain existera toujours.
Hein, oui. Voilà. On y croit fort.
C'est quand même la clé. Nécessaire.
Et même vidéo. Merci beaucoup à tous les deux, Christophe Montagnon et Geoffroy Delétrange. Merci.
Merci.
L'atelier numérique se poursuit. Hein, on revient dans un instant. On va poursuivre cet atelier avec notre World Tour, notre French Tech Tour. Et puis après, nous irons du côté de la rédaction de Zeronet.com, comme chaque samedi. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
Quels investissements pour les startups de la French Tech? Ce sera dans un instant, ce sera notre French Tech Tour avec Aurore Géraud et notre invité, mais auparavant notre World Tour et direction l'Italie avec vous Lila Megrawa. Vous êtes à Milan qui profite de l'Expo Universelle pour accélérer sa Smart City, Lila.
Oui François, alors cette semaine pour ce World Tour, j'ai à mes côtés Renato Galliano, bonjour.
Bonjour à tous.
Alors c'est un peu spécial, on est à Milan. On va parler de Smart City. Alors Renato Galliano, vous êtes directeur du département innovation économique, Smart City et université de la ville de Milan. Alors dites-nous un peu, quelle est cette vision de la Smart City à Milan ?
Voilà, on a commencé le programme Smart City, c'était 2013. On a commencé à travailler avec les entreprises, avec les universités, mais aussi avec les artisans et avec les associations des citoyens pour développer un projet commun. Ça a nous amené à écrire des lignes guides pour développer la Smart City à Milan. Maintenant, sur Milan, il y a 14 projets concernant la Smart City qui ont été financés par le ministère de la Recherche, le ministère national de la Recherche, ou par la région Lombardie. Les 14 projets sont basés sur différents secteurs. Il y a des projets sur la mobilité, il y a des projets sur la santé, il y a des projets sur l'eau, par exemple. Il y a des projets sur le social. Et Smart City, c'est quelque chose que ne peut pas être bâti seulement ou développé seulement par la municipalité, par le secteur public, doit engager tous les acteurs économiques et tous les acteurs sociaux aussi. parce que nous, on croit que la Smart City, c'est quelque chose finalisé à améliorer la vie des gens qui vit et travaille à Milan, et pas seulement une développement technologique, mais la technologie est considérée quelque chose comme un facteur qui va aider le développement de projets finalisés à améliorer la vie des citoyens et des entreprises.
Donc au final, ce que vous dites, c'est que une ville intelligente, c'est aussi une ville qui comprend ses citoyens. Le numérique reste un outil pour amener les gens à mieux évoluer dans la ville.
Absolument. Nous, dans la méthodologie qu'on a utilisée, le numérique est, on va dire, la base sur laquelle on va développer des projets de Smart City. C'est quelque chose d'absolument important qu'on peut pas enlever, on peut pas faire sans le numérique, mais c'est pas la finalité. La finalité doit être des projets et des activités pour améliorer la situation des citoyens et des entreprises.
Est-ce que dans cette vision, ce concept de Smart City selon la ville de Milan, est-ce que vous êtes parti de rien où il existait déjà différentes initiatives?
On est parti, il y avait déjà des initiatives et des projets qui n'étaient pas considérés des projets Smart City. Ils avaient la potentialité d'être des projets Smart City, mais ils n'étaient pas encore. Une partie de notre travail, c'est exactement de faire une amélioration des projets pour les pousser à devenir des projets Smart City. On a commencé avec un répertoire des projets qu'il y avait déjà dans la municipalité de Milan. On a travaillé avec l'association des entreprises de Milan et eux aussi, ils nous ont donné des projets, des indications de projets sur lesquels les entreprises, ils étaient déjà en train de partir. Après, il y a aussi eu l'exposition universelle 2015 que nous a aidés pour lancer des projets plutôt avancés, je dois dire. Expo 2015 peut être considéré comme une Smart City Greenfield, comme disent les Anglais, c'est-à-dire une Smart City complètement bâtie de rien, parce que c'était une aire agricole qui a été infrastructurée et a développé en utilisant les technologies les plus avancées. Comme ça, on a pu utiliser qu'est-ce qu'il y avait déjà dans la ville de Milan. Et on a travaillé aussi avec Expo 2015 pour améliorer le niveau d'innovation des projets.
Merci beaucoup Renato Galliano. Je rappelle, vous êtes directeur du département innovation économique, Smart City et université, la ville de Milan. Merci.
Lila, merci. Et après Milan, retour dans notre bon pays. Aurore Géraud, puisque nous allons parler de French Tech et d'investissement.
Oui, pour notre French Tech Tour, aujourd'hui nous sommes avec Yann Hervé de Ruskek, qui est responsable d'Euraseo Croissance. Bonjour.
Bonjour.
Euraseo Croissance, c'est une branche de la société d'investissement Euraseo qui se concentre sur les startups. On peut dire ça?
On peut dire ça, oui. Alors, Euraseo Croissance, c'est une société qui se concentre sur les sociétés en très forte croissance. Donc nous, on va chercher de la croissance. On va chercher de la croissance réplicable sur la durée, dans des marchés de très grande taille et dans des marchés qui sont portés par des tendances qu'on a identifiées, comme l'économie du partage, comme le changement des modes de consommation et notamment l'acte d'achat sur Internet, et comme la transformation digitale des entreprises.
Avec l'arrivée du label French Tech et autres passe French Tech. Est-ce que vous constatez qu'il y a une véritable accélération dans les investissements de start-up françaises?
Alors, il y a clairement une accélération et c'est une très très bonne nouvelle puisque sur rien que sur l'année 2015, on a constaté quasiment une dizaine de levées de fonds d'un montant supérieur à 25 millions d'euros, alors que ces levées de ce type étaient tout à fait exceptionnelles dans le passé. Donc une accélération en nombre, mais également une accélération en montant. Et voilà, ça c'est une très bonne chose. Et nous, Euraseo, croissance, on est complètement dans cette tendance d'accélération puisque nous avons fait 3 investissements en 2015 sur les 10 dont j'ai parlé.
Quels secteurs actuellement sont les plus porteurs selon vous ?
Alors, justement, c'est les secteurs porteurs, c'est les secteurs qui bouleversent la société et les sociétés. L'économie du partage, c'est un secteur qui est extrêmement porteur. Nous, on a réalisé un investissement dans Prêt d'Union qui est du financement participatif, donc entre particuliers, et c'est un voilà, c'est un phénomène qui se décline dans tous les secteurs. L'acte d'achat sur internet, nous avons investi dans Vestiaire Collectif. Vestiaire Collectif, c'est une place de marché de produits de luxe et de mode d'occasion. Et la transformation digitale, c'est notre dernier investissement, donc tout récent dans PeopleDoc, qui est une société qui digitalise la fonction RH des entreprises.
Donc, dans votre portefeuille, il y a ces 3 startups qui appartiennent clairement à la mouvance French Tech. Est-ce que c'est un gage de qualité selon vous?
La mouvance French Tech, c'est un gage de qualité, évidemment, et c'est fantastique qu'aujourd'hui, ces pépites qui sont françaises, à l'international. PeopleDoc, c'est une société qui a réussi son développement aux États-Unis, hein, puisqu'ils sont présents en France et aux États-Unis. Mais ce qu'il faut, c'est entretenir ça, c'est soutenir la French Tech. Et nous, en tant qu'investisseurs, notre rôle, c'est d'accompagner ces sociétés pour leur développement international, leur donner le temps. Chez Euraseo, nous sommes une société d'investissement, donc nous avons le temps, leur donner les moyens, et notamment en réinvestissant dans ces sociétés, et puis leur apporter le réseau qui leur permet de se développer à l'étranger, d'ouvrir des nouveaux bureaux.
Justement, quels sont les leviers actionnés par Euraseo pour permettre aux startups d'atteindre le fameux Graal qui est la licorne, quoi, le statut de licorne, qui pour rappel ce sont en fait les startups valorisées à plus $1 milliard de dollars?
Alors, les leviers, par exemple, ce sont les gens. Nous, chez Euraseo, nous sommes entourés de gens, qu'on appelle notre réseau. C'est un réseau international, c'est un réseau un réseau politique qui permet à nos sociétés, du coup, de s'appuyer sur ce réseau pour se développer. Mais aussi, les gens, c'est aussi les gens qu'on a en interne. Ce sont les équipes d'investissement, les équipes les fonctions support. Et je vous donne un exemple. On a chez Euraseo une DRH qui connaît tous les DRH de France et qui va aider PeopleDoc justement à se développer et notamment à se connecter avec ces DRH.
Et quelles sont vos stratégies d'investissement? Quels sont les critères que vous favorisez dans une start-up?
Alors, c'est la croissance. Très clairement, la croissance, mais vraiment la croissance réplicable sur le long terme. Donc c'est la croissance dans des marchés très importants et sur des modèles qui peuvent se répliquer dans des pays, dans d'autres pays que la France.
Le but, c'est l'internationalisation.
C'est un passage obligé.
Très bien, bah parfait. Très bien, voilà la French Tech qu'on va encore découvrir tout au long de cette année. Merci beaucoup. Et on revient dans un instant pour la suite de cet atelier numérique. Vous restez là, bien sûr, la rédaction de Zeronet.com avec Eric Le Bourlou. Et puis après, ce sera le crash test d'Antoine Cyr. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
Allez, c'est l'atelier numérique sur BFM Business, l'actualité high-tech, vous le savez, et toute l'économie numérique, chaque samedi, 16h-18h, le crash test d'Antoine dans quelques instants, mais maintenant direction la rédaction de Zeronet.com, le premier site d'actualité high-tech de France, avec son rédacteur en chef du pôle actu, qui est là, comme chaque samedi, fidèle au poste, Eric Le Bourlou. Salut Eric.
Bonjour.
Alors Eric, l'actualité high-tech de cette semaine, on va commencer par Google qui a déballé ses produits pour Noël. Ouais,
tout à fait, il y en avait un sacré paquet d'ailleurs de produits. On va commencer par quoi? On commence par les smartphones. Sans
Allez,
doute,
on y va, puisque voilà. C'est quand même les produits qui risquent de se vendre le plus.
Exactement, quoique peut-être pas, on va voir.
Peut-être pas.
Il y a effectivement deux smartphones qui ont été présentés par Google. Alors ce sont des smartphones un petit peu, c'est des ce qu'on appelle des flagships, mais là à plusieurs niveaux, puisque ce sont les premiers smartphones à profiter de la toute nouvelle version d'Android, un Marshmallow, hein, on sait que c'est des noms de sucreries à chaque fois. Donc ils s'appellent le Nexus 5X et le Nexus 6P. Donc ils sont pas fabriqués directement par Google, ils sont fabriqués par des partenaires, en l'occurrence LG et Huawei. Et donc ce sont deux téléphones aux capacités plutôt performantes, plus performantes que d'habitude. En général, Google faisait plutôt dans le moyen haut de gamme. Là, c'est plutôt des téléphones plus haut de gamme, mais qui sont aussi plus chers que d'habitude. Et donc voilà. Alors, ce sont des téléphones qui seront vendus par Google, par contre, hein, depuis son site web, ou alors on va les trouver aussi bientôt demain dans les magasins. Mais ce qui est intéressant avec ces téléphones, qui n'ont pas des spécifications,
oui, qui ont le pedigree de tout smartphone actuel, on va dire.
Voilà. Ce ne sont pas des téléphones extraordinaires d'un point de vue technique, qui sont bons. Voilà, on attendra le test pour voir exactement ce qui donne. Mais effectivement, c'est aussi pour Google une vitrine, une façon de dire, bah voilà, on a Android 6, ça c'est nous. Voilà comment on veut le vendre. Il n'y a pas dans ces téléphones de service supplémentaire, c'est Android.
Mais c'est un peu le téléphone étalon, on va dire.
C'est le téléphone, étalon qui montre ce que c'est que l'OS de Google et ses services, etc., etc. Donc voilà, deux nouveaux téléphones. Ce qui est plus intéressant à mon sens, même si ce sont des produits qui valent pas cher du tout, ce sont les nouveaux Chromecast. Chromecast, c'est une petite clé que Google avait sortie il y a 2 ans maintenant pour qu'on connecte à la prise HDMI de sa télé.
Qui a très bien marché.
Qui a très bien marché. Pourquoi? Parce qu'elle est aussi très peu chère. Ça coûte à peu près 35 à 40 euros pour la nouvelle version, mais 35 euros la première. Effectivement, qui permet depuis son smartphone de streamer à peu près tout ce qu'on veut en cliquant sur un bouton sur la télévision. Google a présenté une nouvelle version de cette clé, donc avec une meilleure connexion Wi-Fi, etc., avec un nouveau design. Mais surtout, il a présenté ce qu'il appelle Chromecast Audio, qui est en fait une version...
Alors c'est un autre boîtier,
qui lui ressemble un peu, mais c'est un autre boîtier, et qui est destiné, celui-ci, à vous permettre de connecter n'importe quelle enceinte que vous avez chez vous. Alors vous reliez ça par une prise jack ou optique à votre enceinte, et puis vous pouvez streamer depuis votre smartphone n'importe quoi, Spotify, des radios en ligne, Google Play Music évidemment, vers votre enceinte qui devient une enceinte internet. Et ça coûte pareil 40 euros. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est que vous pouvez en mettre plusieurs dans votre appartement, dans votre maison, et que ça peut se synchroniser. Donc vous pouvez comme ça choisir celui sur lequel vous diffusez, ou bien envoyer du son de plusieurs enceintes en même temps. Donc ça c'est assez génial, parce que il y a des solutions qui sont comparable, en fait, on va dire, qui existe déjà, mais c'est beaucoup moins cher. Donc là, avec ce petit objet qui vaut pas grand chose, Google pourrait bien faire un petit carton.
D'accord. Alors, ça sort quand tout ça?
Alors les Chromecast sont sortis, sont disponibles. Les smartphones, va falloir attendre un petit peu, c'est pour la fin de l'année, ça arrive très bientôt dans les semaines qui viennent en fait.
Et puis il y avait un autre produit qui était pas prévu. C'est une espèce de tablette qui ressemble à un ordinateur en fait.
Exactement. On voit que Google s'est un petit peu inspiré de ce qu'a fait déjà Microsoft avec Surface, ou Apple là récemment avec l'iPad Pro, puisqu'il présente lui aussi une espèce de tablette convertible qui s'appelle Pixel C. Alors là, la différence qui est d'ailleurs assez intéressante par rapport au Nexus, c'est que c'est un produit de Google. Ce n'est pas fabriqué par des partenaires constructeurs, même si évidemment c'est fabriqué en Chine aussi. Mais là, il le vend sous sa marque, et sous sa marque Pixel, qui comportait pour l'instant une seule machine. Donc c'est une tablette sous Android, très puissante, avec un gros processeur dedans, beaucoup de RAM. Donc c'est vraiment fait pour des usages assez intensifs. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, elle a un clavier, et un clavier que l'on peut connecter de façon aimantée sur la tablette. Et ce clavier, en fait, est assez intéressant, parce qu'on peut le mettre dans tous les sens. Vous savez, on peut le mettre quasiment à la verticale, ou l'orienter à sa guise. Ce qui n'est pas le cas des produits concurrents. Et Google, je pense, essaye de faire pour le coup une tablette qui est utilisable vraiment comme on utilise un ordinateur portable.
En plus, intelligent, parce que ce clavier sert aussi de protection, parce qu'en fait, quand vous le collé en fait à la tablette, eh bien voilà, ça devient comme un boîtier en fait qui protège la tablette. Et puis il y a une batterie, je crois, à l'intérieur.
Ouais, il y a une batterie et il se recharge en fait quand vous le collez à la tablette, il se recharge par induction. Donc ça, c'est aussi assez malin.
C'est pas mal.
Et voilà, donc cette tablette pour l'instant n'est pas encore disponible. Elle va être disponible aussi bientôt.
Et elle tourne sous Android. C'est ça qui est étonnant parce qu'on aurait pu s'imaginer avoir du Chromebook, du Chrome OS. Et bien là, non, c'est de l'Android.
C'est de l'Android, ouais.
Bon, on verra bien.
On verra bien ce que ça va donner. En tout cas, Google n'a pas abandonné le secteur des tablettes.
Autre grand géant des nouvelles technologies qui nous a épaté cette semaine, c'est Tesla. Alors vous le savez, hein, Tesla, c'est le constructeur automobile à suivre, sans doute le constructeur de demain, et qui vient de sortir, qui vient d'annoncer un nouveau véhicule.
Voilà, c'est la Tesla Model X. Alors on avait déjà vu un petit peu à quoi ressemblait. Ça y est, elle a été présentée largement à la presse cette semaine. Les premiers exemplaires ont d'ailleurs été vendus. C'est un SUV, donc c'est un modèle, on va dire, plus familial hein, que le
moins coupé, sportif.
Moins sportif, mais alors attention dans le moteur. Par contre, ça avance beaucoup parce que c'est le même moteur finalement que dans son autre voiture, la Model S. Avec sur le modèle le plus puissant, vous allez de 0 à 100 km/h en 3,2 secondes. C'est aussi rapide qu'une voiture de course. Mais ce qui est intéressant dans cette voiture, c'est toutes les technologies qui sont embarquées dedans. D'ailleurs, il y a tellement de technologies embarquées dedans que le patron de Tesla, Elon Musk, a carrément dit moi, si j'avais su que ça aurait été si compliqué à faire, qu'on aurait eu tellement d'ingénierie à faire sur cette voiture, je sais même pas si on l'aurait fait. Donc voilà, effectivement, c'est assez impressionnant. Vous avez des portes papillons qui s'ouvrent un peu comme dans un vaisseau spatial. C'est assez impressionnant, c'est assez bluffant.
Oui, c'est vraiment un concentré de technologie. On dit ça, c'est-à-dire qu'il y a vraiment tout à l'intérieur.
Exactement.
Tout ce qui se fait de mieux aujourd'hui en matière de techno.
Exactement. Elle est presque autonome, c'est-à-dire qu'elle n'est pas complètement autonome, mais vous pouvez lâcher le volant sur des portions de route. Les portes, elles s'ouvrent toutes seules. C'est-à-dire vous vous rapprochez. Là, il y a ce qu'ils appellent un chauffeur virtuel qui vous indique en fait, qui vous ouvre la porte automatiquement dès que vous approchez de la voiture. Il y a plein de choses comme ça dans la voiture qui sont assez impressionnantes.
Le problème, Eric, c'est le prix.
Oui, c'est le prix évidemment, puisqu'il faut compter quand même 150 000 $ pour se la payer. Hein, et encore le modèle peut-être pas le plus
riche en options. Mais est-ce qu'on sait si Tesla s'apprête à sortir un véhicule plus abordable?
Oui, c'est évidemment Tesla s'apprête. On sait qu'il a construit une gigantesque usine en collaboration avec Panasonic aux États-Unis pour faire des batteries et ce que souhaite faire Tesla, c'est évidemment sortir un modèle qui soit plus abordable, qui puisse vendre à beaucoup plus de clients. Et on sait que sa prochaine voiture sera une voiture bien plus abordable. Alors quand bien plus abordable, ce sera pas une voiture à
10 000 €. Ce sera pas une Dacia.
Voilà, ce sera pas une Dacia, mais ce sera quelque chose que beaucoup plus de gens déjà pourront s'offrir. Et
qui sera plus compact, on va dire. Hein, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, à Paris, une Tesla,
c'est un peu compliqué. Il y en a qui se garent sur les bornes Autolib, mais c'est vrai qu'après, ils prennent beaucoup de place.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire là, il y a plus d'Autolib.
C'est un peu difficile. Mais
voilà pour Tesla et son patron emblématique et génial, Elon Musk, hein, qu'on compare souvent d'ailleurs à Steve Jobs.
Ouais.
Et on va parler maintenant, justement d'Apple. L'un des lieutenants de Steve Jobs, justement, c'était Eddie Q, qui est toujours
Un des vice-présidents d'Apple. Ouais.
Voilà, l'un des patrons d'Apple avec Tim Cook et d'autres. Il a annoncé quelques informations intéressantes concernant les télécoms cette semaine.
C'est très surprenant parce qu'il était à Londres pour faire la promotion un petit peu de ses nouveaux produits et à l'occasion d'une interview avec le Evening Standard, il a annoncé en fait qu'il ça l'ennuyait les problèmes de roaming, les problèmes de frais de roaming, de frais d'itinérance, et il a annoncé que Apple travaillait à résoudre ce problème. Il en a pas dit beaucoup plus, mais que Apple effectivement donc s'intéressait aux moyens quand vous changez de pays, vous êtes toujours confronté à ce problème de couper internet parce que ça vous coûte trop cher. Et Apple,
alors même si en Europe tout ça est en train de
changer. Europe, c'est vrai que si vous voyagez aux États-Unis ou ailleurs dans le monde,
sauf si on est chez Free, où là le roaming est compris aux États-Unis.
Tout à fait. Chez Free, c'est différent. Mais et donc Apple réfléchirait à une solution pour en finir avec ces problèmes de frais de roaming qui effectivement pour les globetrotters est un petit peu ennuyeux. Il ajoutait à cela que effectivement c'était un problème qui était difficile à résoudre parce qu'il fallait convaincre beaucoup de gens. Alors voilà, on en restera là. Convaincre beaucoup de gens, ça veut dire quoi?
C'est assez mystérieux.
C'est assez mystérieux, mais convaincre beaucoup de gens, ça veut dire sans doute qu'il faut qu'ils discutent avec énormément d'opérateurs partout dans le monde pour pouvoir proposer une offre, une offre qui, pour les utilisateurs d'iPhone ou d'iPad, qui leur permettrait en fait de pouvoir surfer sans problème, quel que soit l'endroit où ils se trouvent.
Cela dit, Xavier Niel y est arrivé avec Free. Pourquoi Apple n'y arriverait pas?
C'est vrai, c'est vrai. Pourquoi pas? Mais là, le problème,
bon, le problème
c'est
qu'Apple. Compliqué. C'est qu'Apple est un acteur international et que Free est un acteur national.
Français. Donc, ça multiplie les partenaires à trouver. Et puis, aussi, Apple vend du matériel et effectivement, enfin, on comprend sa logique parce que Apple a toujours voulu, faire le service le plus simple pour ses utilisateurs. Et effectivement, la couche supplémentaire serait maintenant le service mobile. Alors, il y a eu une rumeur il y a quelques semaines qui voulait qu'Apple se lance carrément en tant qu'opérateur virtuel, hein, qui passe des accords avec des opérateurs locaux dans plein de pays pour qu'ils puissent proposer un forfait Apple qu'on pourrait avoir directement quand on active son téléphone. Et ça pourrait résoudre le problème. On peut aussi imaginer qu'ils pourraient s'arranger avec différents opérateurs dans différents pays pour pouvoir proposer à chaque fois un forfait, on va dire, data plus accessible pour ses clients iPhone ou iPad.
Et puis rappelons que l'un des souhaits d'Apple est de faire disparaître la carte SIM des appareils.
Il a déjà commencé.
Il a déjà commencé, notamment avec l'iPad.
Exactement.
Alors il y va doucement puisque évidemment les opérateurs, eux, ne veulent pas du tout que la carte SIM disparaisse parce que c'est pour eux quand même très important d'être identifié, d'être présent. Donc en fait, la carte SIM serait dans l'appareil, mais elle serait de manière software. Et vous auriez plus ce petit bout de plastique à insérer dans votre iPhone ou votre iPad.
Et on choisirait finalement son opérateur.
Vous allumez votre iPad, vous choisissez votre opérateur, vous rentrez votre code PIN et c'est réglé. Voilà, est-ce qu'Apple va y arriver? On verra bien.
Ouais, c'est sans doute compliqué, mais effectivement, c'est possible.
Merci beaucoup, Éric Le Bourlou. Éric Le Bourlou, rédacteur en chef du pôle actu de 01net.com chaque samedi, donc dans l'atelier numérique sur BFM Business. Vous restez là, on a encore quelques minutes à passer ensemble avec entre autres le crash test d'Antoine Cyr. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
Voilà, pour terminer cet atelier numérique dans un instant, le crash test d'Antoine Cyr. Mais auparavant, les amis, je suis ravi d'accueillir dans ce studio Guillaume de Groisse. Bonjour Guillaume.
Bonsoir François.
Et avec Guillaume, on va s'intéresser à quelque chose que vous avez peut-être vécu, c'est la réalité augmentée en magasin. Alors comme ça vous dit peut-être rien, mais Guillaume, donnez-nous quelques exemples. Peut-être que ça va en inspirer quelques-uns qui nous écoutent.
Alors effectivement, pourquoi est-ce qu'on parle de la réalité augmentée aujourd'hui ? Vous n'avez pas pu passer à côté de la campagne de Carrefour avec une start-up qui s'appelle Fittle, qui vous permet d'essayer, quand vous êtes une femme, donc j'ai pas pu le faire, la collection Tex, donc de Carrefour, directement de chez vous. Vous prenez des photos avec votre smartphone, vous créez votre avatar et vous essayez les vêtements. Donc la réalité augmentée pour essayer des vêtements, ça commence à marcher.
Oui, c'est-à-dire que là, on n'essaie pas nous-mêmes les vêtements, on crée un avatar et on essaie les vêtements. Hein.
Exactement, donc on est dans une représentation 3D, on essaye des vêtements virtuels avec son avatar virtuel.
Alors, Topshop avait fait un truc comme
exactement,
ça aussi.
Exactement, ça remonte un peu loin, c'était en 2011 à Moscou, on avait des cabines connectées chez Topshop où on pouvait essayer des vêtements avec un système de Kinect où on pouvait faire tourner autour de soi des vêtements Topshop en cabine.
D'accord.
On avait vu aussi, toujours en boutique chez Shiseido, des miroirs qui étaient en réalité augmentés, où on pouvait tester soi-même du maquillage sans le mettre sur sa peau. Donc
là
ça,
encore,
c'était...
c'est pas pour nous ça, Guillaume.
Non, ça c'est pas pour
ça
nous, c'est pas de chance.
Nous.
Par contre, on a eu la numérisation en 3D du catalogue IKEA en 2013. Donc ça, on pouvait s'amuser à mettre ses meubles, etc., à les faire tourner. Donc on est bien dans de la réalité augmentée. Et là, on n'est même plus en magasin, on n'a plus besoin de se déplacer.
C'est-à-dire qu'on pouvait aménager un appartement virtuel avec des meubles IKEA.
Exactement, son appartement et utiliser tout le catalogue IKEA. Et ça, ça date de 2013 quand même.
Ouais.
Et petit dernier exemple gadget, mais ça qui nous plaît beaucoup plus, c'est essayer des Converse avec son smartphone. Ça, c'est pas mal. L'année dernière, Converse qui a sorti une app où en réalité augmentée on pouvait flasher son pied et avoir des Converse au pied. C'était assez marrant.
Ah, ça c'est pas mal. Attendez, en plus c'est toujours la bonne pointure, etc.
Et la bonne couleur et on peut changer, etc. Ça c'était sympa. Bon,
il y a eu des exemples aussi, je crois, avec des masques de réalité virtuelle, vous savez, les Oculus, etc. Mais c'est un peu plus lourd à gérer. Hein. Peut-être que ce sera aussi l'avenir, ce genre de choses.
Alors ça pourrait être l'avenir parce que finalement, ce qu'on se dit aujourd'hui, c'est que cette réalité augmentée, que ce soit en magasin ou en dehors du magasin, c'est encore un peu gadget, c'est encore des outils de promo, c'est-à-dire que ça fait
oui, pour des marques, c'est aussi une bonne image qu'on dégage, une image un peu techno, branchée, etc.
Bon, c'est une super image, est là, mais il n'y a pas encore forcément de ROI parce que c'est des technologies qui coûtent relativement cher pour les boutiques, etc.
Quand ça marche, parfois
ça marche pas complètement. Et puis on se rend compte aussi qu'il n'y a pas encore d'adhésion massive, c'est-à-dire que finalement, en magasin aujourd'hui, tout le monde utilise son mobile pour deux choses, vérifier les prix et envoyer des photos à ses copains, à sa famille, etc. Mais il n'y a pas encore d'adhésion de ces applications de réalité augmentée. Donc finalement, ce qu'on peut se dire aujourd'hui, c'est que cette réalité augmentée, elle est bien pour créer une nouvelle expérience en boutique, pour driver des clients en boutique, pour leur apporter quelque chose, pour transformer l'expérience en magasin. Mais j'ai un peu l'impression que cette réalité augmentée, c'est le mobile des années 2000-2005. C'est-à-dire que ça commence, on voit qu'il se passe quelque chose, mais on n'y est pas encore.
Alors, il manque la 4G, quoi.
Ouais, il manque l'iPhone, il manque la 4G. Alors, Oculus Rift, est-ce que ce sera le moyen de faire entrer la réalité augmentée chez tout le monde plus facilement? Ils vont sortir des choses, ils sont en train de les annoncer. Ouais. Il y a eu quand même un gros investissement de nos amis américains.
Il y a les fameuses lunettes HoloLens aussi, hein, de Microsoft, hein, qui ont l'air très prometteuses.
Donc, voilà. On y va, tout doucement, mais c'est pas encore demain qu'on essaiera tous nos vêtements directement chez soi. Pas de bol, mais on y va. Ça, bon, c'est important.
Très bien. On est toujours obligé d'essayer les vêtements dans les magasins. Remarquez, c'est pour certains, c'est du plaisir aussi. Donc,
mais bien sûr, voilà, il faut que ça reste du plaisir.
Il y a peut-être aussi, c'est pour ça aussi peut-être la raison. C'est qu'on a un plaisir à aller dans un magasin, d'essayer des choses.
Toucher la matière, etc.
Toucher la matière, etc. Donc, voilà.
Non, le retail n'est pas mort. Les magasins ne vont pas disparaître. Parfait. Ils ne seront pas remplacés par la réalité augmentée. Ce n'est pas pour tout de suite.
Merci beaucoup, Guillaume de Groix. Et place donc à notre crash test pour terminer cet atelier numérique avec comme point de départ piraterie.
Voilà, la piraterie. Alors, je vais pas vous parler du parti pirate, je vais pas vous parler. Non. Là, vraiment, j'ai cherché la piraterie. Et alors, bizarrement, quand on arrive sur la piraterie, quand on tape piraterie sur son moteur de recherche, on arrive assez vite sur le lexique, sur le vocabulaire de la piraterie, et on arrive sur un site qui s'appelle piratetcompagnie.free.fr. Et alors là, c'est assez intéressant parce que c'est un peu comme le rocher du crâne et l'île de Peter Pan, mais sur Internet. C'est-à-dire que c'est un endroit secret, mythique, et bref, je ne vous en dis pas plus, je rentre dans le vif du sujet. Donc vous arrivez sur ce site Pirate et Compagnie, et là vous trouvez effectivement un très bon lexique de la piraterie, dans lequel vous apprenez quelques petites choses assez intéressantes. Par exemple, est-ce que vous connaissez le quai des exécutions à Londres ?
Non.
Eh bien donc, c'était un quai qui était donc au bord de la Tamise. C'était là que se tenaient les exécutions.
Ça, c'est pas bon de se promener sur ce quai-là, je pense.
Le sujet, c'est que tout bateau qui entrait ou qui sortait du port de Londres pouvait apercevoir les pirates pendus, dont les corps séchaient dans les cages de gibet, ce qui avait quand même un effet potentiellement un peu dissuasif.
Dissuasif, oui.
Voilà. Dans le même genre, mais là c'est plutôt du côté des pirates, est-ce que vous savez ce que signifiait le drapeau rouge ?
Non.
Eh bien, le drapeau rouge signifie que le combat est sans pitié et qu'aucun prisonnier ne sera fait.
Ah oui, tout le monde meurt.
Ouais, bah, tous les gens qui ne seront pas du côté des vainqueurs vont mourir, oui.
D'accord.
Donc c'est sympa, ouais, voilà.
Donc, si je puis me permettre, on annonce la couleur.
Donc j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas le drapeau rouge. La mauvaise, c'est que les pirates ont quand même envahi le bateau, quoi.
Et voilà, c'est ça.
Voilà. Et puis alors, est-ce que vous savez ce que veut dire le branle-bas?
Le branle-bas?
Eh oui, parce qu'on dit branle-bas de combat.
Branle-bas de combat.
Et ben, ça vient d'où?
Je sais pas du tout.
Eh bien, ça veut dire hors du hamac. C'est-à-dire que à chaque fois qu'il y a une attaque, qu'on doit rejoindre son poste de manœuvre, eh bien, en fait, on secoue le hamac et on en descend. Et donc, c'est le branle-bas.
Ah oui,
tout
d'accord.
Simplement.
Donc, voilà. Le branle-bas de combat. Après.
Le branle-bas de combat.
Ah ouais.
Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce lexique, dont je viens de vous donner quelques extraits, est un exemple de brand content de petite entreprise, puisque c'est une crêperie qui s'appelle Pirate et Compagnie, à Nantes, qui a fait ce site. Voilà, alors ça c'était la bonne nouvelle, c'est comme pour le drapeau rouge. Et la mauvaise nouvelle, c'est que j'ai essayé de téléphoner à la crêperie en question pour voir si elle existait toujours. Et en fait, elle existe toujours, sauf qu'elle a été remplacée par le Falstaff. Donc c'est amusant parce qu'il y a un petit vocabulaire de piraterie assez bien fait qui se balade sur Internet.
Mais qui n'a plus d'accroche en fait.
Mais qui n'a plus d'accroche en fait parce que la crêperie qui l'avait lancé comme un petit brand content bien sympathique. Brand content, c'est-à-dire contenu de marque. Pardon, un brand content, c'est tout le monde n'est pas censé travailler dans la communication. Un brand content, c'est un contenu de marque qui est utilisé donc pour animer une marque, alors même qu'il présente un intérêt autre qu'un intérêt purement commercial.
Voilà.
C'est là, c'est typiquement.
Donc cette crêperie a fermé. Donc
non, voilà, elle a été ouverte, enfin, a été remplacée par le.
Voilà, ce site est orphelin. Un peu.
Et elle a été remplacée par une autre crêperie qui s'appelle le Falstaff. Alors bon, est-ce qu'ils ont fait un vocabulaire sur l'opéra et le théâtre, je ne sais pas, mais bon. Sinon, il y a un portail de la piraterie. Donc, quand vous allez sur, vous savez, le Wikipédia est organisé par portail. Donc, c'est l'occasion de tester un portail. Et donc, le portail de la piraterie est assez bien fait. Alors là, par exemple, on vous rappelle pourquoi les pirates portent des noms différents. Il y a les boucaniers qui sont à la base des chasseurs qui vendent du gibier et des peaux en Europe ou plus simplement dans le port près de leur camp de chasse. Certains boucaniers se lancent dans la flibuste, mais ils ne représentent pas une grande partie des flibustiers. En effet, les flibustiers, eux, sont pour la plupart des Européens exilés dans les Caraïbes qui ont décidé de faire du butin librement. Donc l'origine du mot flibustier, c'est la contraction de faire du butin librement.
Ah oui, flibustier,
d'accord.
Et oui,
voilà. Hein. Les pirates ne sont pas seulement des flibustiers, il y a aussi des corsaires qui sont reconvertis, c'est-à-dire des gens qui avaient été envoyés au départ par le roi et puis qui ont pris un petit peu leur indépendance et qui sont devenus pirates. Voilà. Alors sur ce portail de la piraterie, on trouve aussi des cas de batailles célèbres ayant opposé des pirates, comme par exemple la bataille du 22 novembre 1718 sur l'île d'Ocracoke, située au large des côtes de Caroline du Nord. C'est une bataille qui a opposé la Royal Navy et le célèbre pirate Barbe Noire, qui a trouvé la mort, il faut bien le dire.
Ah oui.
Alors, le duel commence par un échange de coups de pistolet.
Ça commence bien.
L'adversaire du... Donc là, ils sont bagarrés. Hein. Déjà, je vous fais pas... voilà, bon. Mais donc là, c'est la fin. Et donc, le gentil, quoi, l'ennemi des pirates, qui s'appelle Maynard, est indemne. Barbe Noire, légèrement blessé, se rue sur lui et brise son épée d'un formidable coup de coutelas. Donc Maynard est désarmé, il est à la merci de Barbe Noire, mais un de ses marins, un des marins de Maynard,
le marin gentil,
vient au secours du chef et donne un coup de sabre au cou du pirate, qui demeure pourtant inébranlable, nous dit-on. D'autres marins accourent et viennent enfin à bout de cette véritable force de la nature.
Incroyable.
Qui reçoit 5 coups de pistolet et 20 coups de sabre avant de succomber.
Eh bien, dis-toi, Barbe Noire, costaud. Hein.
Alors, en revanche, une fois qu'il a succombé, il est décapité.
Ah oui, comme ça, on est sûr.
Le bateau, le Ranger, va recevoir comme trophée la tête tranchée du camarade.
Ouais, bon, ça, c'était une autre époque. Noir, hein,
c'était une autre époque. Hein,
voilà. Et puis, voilà, bon, il avait un peu cherché.
Il avait pas si mal vécu. Oui. Voilà. D'autres endroits où on va trouver des termes de piraterie, mais des termes plus, je dirais là, pour le coup, plus précis, on va souvent les trouver quand même dans des glossaires de la marine, parce que les termes de piraterie font partie du glossaire de la marine. Et donc j'ai trouvé par exemple un site qui, alors là, est vraiment un site très très pointu, celui-là. Là, c'est pas le site de la crêperie, qui appartient à un certain Christophe.Borzex perso. Et donc là, vous avez par exemple l'explication de toutes les voiles. Vous savez, on vous dit souvent, hissez le petit cacatois, le grand hunier fixe, le grand perroquet fixe, la brigantine, le petit hunier, la misaine, le petit phoque.
Ah oui, il y a un vocabulaire incroyable.
On vous donne toute l'explication, et donc vous avez aussi énormément de termes de piraterie. Vous avez tout ce qui concerne la mer et la tradition maritime.
C'est rigolo parce que vous étiez sur le web et à aucun moment on n'a parlé des pirates du web. On s'est là concentré sur la piraterie, voilà. Mais historique.
J'ai dit au début qu'on allait les.
Bah ça peut être l'objet d'un autre crash test un jour sur une autre sorte de piraterie. Merci Antoine Cyr, donc pour terminer cet atelier numérique avec le crash test. Bon week-end à vous toutes et à vous tous. Rendez-vous samedi prochain bien sûr entre 16h et 18h. Salut à tous.